Pour parler du combat culturel dans la lutte idéologique et politique, il est nécessaire dans un premier temps de se remémorer l'acquis qui servira à définir la visée. L'acquis théorique sur la question vient bien sûr de la tradition marxiste, plus particulièrement deux auteurs et militants ont abordé cette question. Gramsci pour les problèmes typiquement européens, Mao Tse-tung pour les problèmes concernant la révolution dans les pays du tiers-monde, mais il n'empêche que des ouvrages de ce dernier, notamment le fameux traité à propos de la contradiction, fournit un certain nombre d'armes conceptuelles pour penser la question. Plus près de nous, un article célèbre de Althusser sur les appareils idéologiques d'État a marqué en son temps aussi une avancée théorique concernant la réflexion sur les superstructures idéologiques. Même si cet article doit être aujourd'hui critiqué au regard de nouvelles avancées théoriques, il n'en a pas moins constitué un apport très important et aujourd'hui encore, il est nécessaire de le lire et de le méditer. Enfin, je me suis également inspiré des travaux du sociologue Pierre Bourdieu et de son équipe qui, très certainement, apportent au marxisme, sont probablement les seuls qui apportent au marxisme, en insistant sur la dimension symbolique de l'hégémonie de la bourgeoisie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces théoriciens, mais aussi de toute la pratique culturelle qui a pu se développer depuis la Révolution de 17, mais également à travers les échecs du Front populaire en France, plus près de nous, du Chili et du Portugal. Il apparaît très nettement que l'appareil culturel est un des appareils idéologiques d'État, et que, à ce titre, il participe à la reproduction des rapports sociaux. À ce niveau, donc, il est clair que pour les révolutionnaires, une double tâche se dessine. D'une part, une lutte idéologique de dénonciation et de critique du rôle de cet appareil, et d'autre part, une lutte pratique de contestation, de construction, y compris de l'intérieur de cet appareil idéologique d'État, que dans un certain nombre de cas, il n'est pas impossible de subvertir ponctuellement. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer l'imagination de la bourgeoisie dans ce domaine. On a assisté récemment à un véritable développement de ce qu'on pourrait appeler une ligne de masse culturelle de la part de la bourgeoisie, notamment à travers le show business. C'est pas la peine de citer Sardou et ses émules pour comprendre à quoi je fais allusion ici. Bien plus, les intellectuels n'échappent pas à ces tentatives de séduction. La preuve en est le récent dîner offert par le pouvoir à la brochette des intellectuels naguère gauchistes les plus brillants de France. Il ne s'agit pas de la part de la bourgeoisie d'un souci seulement idéologique. L'industrie culturelle représente en effet une importante source de profit, d'où son importance objective pour le capital. Le fait que les produits culturels soient des marchandises incite à produire et à diffuser ce qui est vendable, c'est-à-dire ce qui est conforme à l'idéologie dominante. Et par le fait même, on assiste à un effet de réitération, de répétition, d'inculcation de cette idéologie dominante. Pour situer l'importance de cette industrie culturelle, il suffit par exemple de lire le document concernant le 7e plan qui va régir l'économie française dans les 4 années qui viennent, où il apparaît qu'une des lignes de force que le capital se donne pour la recherche du profit est bel et bien les industries dites de loisirs, d'art et de je ne sais plus trop quoi. Toutes ces considérations amènent la bourgeoisie à développer un discours unanimiste sur la culture. La culture est au-dessus des classes, l'art ne doit pas être politique, et d'une certaine manière, ce discours unanimiste qui a trouvé son héros le plus brillant en la personne de André Malraux, trouve à se concrétiser dans des institutions et des équipements tels que les maisons de la culture ou encore le centre Beaubourg. D'une certaine manière, il est clair que la culture a tendance à se substituer à la religion dans ce domaine-là. La politique du dernier ministre de la Culture avec Françoise Giroud. Il est difficile de se prononcer sur ce que sera la politique spécifique de Françoise Giroud, mais la politique de Michel Guy a consisté à la fois à promouvoir des génies, entre guillemets, individuels, et à la fois à décentraliser au maximum pour encadrer le plus grand nombre de gens par un réseau culturel relativement dense. Il s'est agi, dans l'esprit de Michel Guy, de développer le contrôle social, de le rendre plus fin et de participer à l'entreprise de diffusion de la culture cultivée. Michel Guy disait, je le cite, « Il ne s'agit pas de développer la culture pour tous, mais la culture pour chacun ». Voilà une phrase qui me semble bien indiquer quelle est la ligne idéologique de la bourgeoisie sur cette question. Le dernier aspect de la politique de la bourgeoisie dans le domaine culturel est aussi assez bien connu, c'est son effort perpétuel de récupération des formes nouvelles. C'est très net dans l'histoire du jazz, la musique des Noirs américains, et le Roy Jones a écrit un livre qui s'appelle Black Music sur la question, qui montre comment le jazz est constamment récupéré par la bourgeoisie. Mais c'est vrai aussi chez nous de la folklorisation du renouveau nationalitaire. C'est vrai de l'animation culturelle. C'est vrai des terrains d'aventure qui peuvent apparaître comme un thème contestataire, mais qui aujourd'hui sont programmés dans certains grands ensembles concentrationnaires. Bref, quand on dit qu'on est en face d'un appareil idéologique d'État, on recoupe ce que Gramsci voulait dire en parlant de ces forteresses et casemates, je le cite, qui, articulées à l'école, à la formation permanente, etc., protègent le pouvoir de la bourgeoisie et assurent son hégémonie. Cette hégémonie, on peut en donner une définition, que j'emprunte encore à Gramsci, c'est l'ensemble des fonctions de domination, d'éducation et de direction qu'elle exerce sur toutes les classes sociales par l'intermédiaire de la société civile, la culture apparaissant, dans cette perspective, un des domaines privilégiés où ce pouvoir s'exerce à travers la société civile. Tel est donc l'acquis théorique dont on dispose pour comprendre le rôle stratégique, le rôle crucial du terrain culturel pour la bourgeoisie. Face à elle, quels sont les enjeux qui nous concernent? Je pense que il est possible de dire que le courant socialiste autogestionnaire reprend à son compte le concept et la pratique de révolution culturelle. Il n'est peut-être pas très intéressant de rentrer dans un débat polémique sur les différentes figures et sur la mise entre parenthèses que la révolution culturelle a connue en Chine. Je pense néanmoins que ce concept est utilisable à différents niveaux. Il s'agit, en définitive, pour les révolutionnaires, de participer à la conquête de l'hégémonie dès avant le moment révolutionnaire, dès avant la transition elle-même, dès aujourd'hui, pour aboutir à la détermination d'un nouveau consensus actif. Le combat culturel participe prioritairement de cette recherche. Et les questions qu'il faut se poser sont donc les suivantes. Sous quelle forme, avec quels alliés, s'affirmer initiateur, porteur, révélateur, amplificateur des luttes anticapitalistes dans leur dimension culturelle? Le seul moyen de se démarquer des thèses réformistes, et à cet égard la lecture des différents travaux du Parti Socialiste est édifiante, sans oublier le livre de Le Roy, par exemple, « La culture au présent » pour le Parti communiste. Pour se démarquer des thèses réformistes, il est donc utile de se référer à ce concept de révolution culturelle. Lénine disait d'ailleurs, dans ce sens-là, qu'il s'agissait de devenir d'autres hommes. D'autres hommes que ceux déterminés par l'organisation capitaliste de l'espace, du temps et des relations sociales. S'il s'agit de devenir d'autres hommes, il ne s'agit pas d'être avec un peu plus de beurre, un peu plus de voiture, un peu plus de culture. Il ne suffit plus que davantage de travailleurs accèdent à la culture dont on prétend qu'elle aurait été confisquée par la bourgeoisie. il faut que cette culture change aussi de forme et de contenu. C'est dans ce sens que le concept de révolution culturelle nous apporte quelque chose. Il nous permet d'abord de refuser de compartimenter l'économique, le politique et le culturel. Il désigne également le processus de transformation socialiste comme multiforme, ininterrompu et global. Et en définitive, il marque la volonté de rupture avec le capitalisme, et non pas je ne sais quel aménagement moderniste. Ce concept de révolution culturelle nous permet de nous dégager aussi bien de l'idéalisme social-démocrate que de l'économisme néo-stalinien. L'idéalisme voudrait nous faire croire que l'art est au-dessus de la lutte des classes, et il prétend changer la vie sans toucher fondamentalement à la base économique. A l'inverse, mais avec les mêmes effets, l'économisme néo-stalinien limite le changement à un changement juridique de propriété, sans s'interroger sur les rapports sociaux nécessairement impliqués par une division et une organisation du travail héritées du capitalisme. A cet égard, le récent film soviétique La Prime est extrêmement éclairant. Et cette vision, à nos yeux erronée, cette vision économisme, fait du combat culturel, disons, la cinquième roue de la charrette du mouvement révolutionnaire. Et par là même, il rejoint l'idéalisme en rejetant la culture hors de la lutte des classes. Reportez-vous à la programmation de la fête de l'humanité. Adopter ce concept de révolution culturelle n'évite cependant pas de se poser la question de l'héritage culturel. Dans nos sociétés occidentales, même si toute culture a été et demeure de classe, il s'est trouvé des périodes où, du mécontentement social à la critique formelle, de nombreuses contestations de la culture, de la domination bourgeoise culturelle, se sont manifestées. Il s'agira donc, c'est un problème important, de trouver des formes d'assimilation critique qui permettront de replacer la production de ces expressions dans leur contexte de lutte de classe et par conséquent de désacraliser l'art comme si c'était un absolu pour en montrer la jeunesse sociale. Il ne faut pas oublier non plus dans cette direction et sans les mythifier les formes culturelles non dominantes. Ce serait vain de rentrer dans une querelle terminologique sur la notion obscure de culture populaire. Il n'empêche que une réappropriation de ces expressions par les travailleurs doit être imaginée. Réappropriation qui ne pourra pas être de type, disons, muséographique, mais une réappropriation tournée vers le présent qui devra servir à ancrer l'affirmation d'une identité de classe dans une mémoire collective propre à féconder l'invention contemporaine de pratiques nouvelles. Le problème se pose dans les mêmes termes pour les nationalités dans l'Hexagone, mais je ne ferai que l'effleurer, car il revient aux militants nationalitaires eux-mêmes de définir leur forme de lutte dans ce domaine. Je pense néanmoins qu'on peut s'assigner comme ligne stratégique le déterrement, disons, de formes culturelles anticapitalistes dont les formes et le contenu ne sont pas nécessairement révolutionnaires, sont parfois réactionnaires, mais il faudrait passer de ce déterrement à l'invention de formes enracinées et liées aux luttes contemporaines des travailleurs et de leurs alliés. Bref, si cette assimilation critique semble indispensable, elle ne porte en définitive que sur l'ancien. Or, il s'agit pour nous de promouvoir l'émergence de pratiques et d'expressions culturelles signifiant la volonté, les avancées et les expériences embryonnaires, contemporaines, d'un contrôle puis d'un pouvoir des travailleurs sur tous les secteurs de la vie sociale. Bref, notre visée est doublement critique et constructive. Critique, puisqu'il s'agit de lutter contre les formes, les contenus, les réseaux de production et de diffusion qui constituent l'appareil culturel bourgeois. Constructive, puisqu'il s'agit d'élaborer des pratiques culturelles nouvelles ou de participer à cette à cette élaboration en s'alliant avec leurs acteurs, les artistes et les intellectuels ou non, et en liant ce travail à la conquête de l'hégémonie par les classes dominées. Ayant jusqu'à présent résumé les acquis théoriques et ayant essayé de dessiner une ligne stratégique globale, il s'agit maintenant de se pencher sur la manière, comme disait Lénine encore, d'introduire la petite vis de la culture dans le grand mécanisme de la révolution. Et pour réfléchir à cette question, il m'a semblé utile de l'aborder sous deux angles, d'une part culture et autogestion, d'autre part lutte sociale et culture. Il est bien certain que dans les deux cas, la question centrale est celle de l'articulation de la pratique culturelle au pouvoir des travailleurs. La perspective du socialisme autogestionnaire signifie globalement le développement de pratiques qui remettent en cause la division du travail, avec tous ses corollaires, la déqualification, la spécialisation, la hiérarchisation, le découpage aliénant du temps et de l'espace social, l'enfermement de chacun dans des rôles sociaux aliénés. Les socialistes autogestionnaires se voient donc assignés comme tâche de soutenir et de promouvoir toute pratique culturelle qui revêtirait les caractères suivants. Une pratique culturelle fondée sur l'initiative, la créativité, l'auto-organisation des travailleurs et des artistes, des travailleurs, artistes et intellectuels, le tout en liaison avec les luttes anticapitalistes et plus largement en liaison avec les luttes des opprimés sur tous les fronts anticapitalistes, l'entreprise, l'école, le cadre de vie, les luttes des femmes, les minorités nationales, etc. Cette pratique culturelle devrait également viser toute possibilité de prendre conscience, de conquérir ou de reconquérir, et d'exprimer la conscience d'une identité collective propre qui permette la compréhension du monde social et l'exercice du pouvoir sur toutes les instances sociales. Après tout, c'est ce que veut dire l'expression classique de « conscience de classe ». En somme, pour nous, il s'agit d'impulser toutes les formes de pratiques culturelles qui permettent de passer d'une consommation individuelle à une consommation collective, d'une consommation des biens culturels à leur production, c'est-à-dire à la création et à la prise en main des conditions technico-économiques de production et de diffusion, et enfin d'une pratique permettant de passer d'une production individuelle à une production collective dans tous les domaines où cela s'avère possible. Il faut en effet réserver le domaine des expressions qui, telles que l'écriture, semblent difficilement collectivisables, quand bien même cela serait souhaitable. Contre les conceptions dogmatiques, telles que Zhdanov les a tristement illustrées naguère, il faut réaffirmer que cette démarche ne peut pas être totalisante. Dans la période de transition, il est indispensable que les expressions culturelles soient l'écho des contradictions, qu'elles contribuent même à les exprimer et, s'il le faut, à les aggraver. Une période révolutionnaire doit accepter de laisser vivre avec elle la diversité des formes que son mouvement même ordonnera. Les productions culturelles ne peuvent épouser le dynamisme social qu'en acceptant et en suscitant les critiques. C'est dire qu'elles seront nécessairement expérimentales et pluralistes. Il ne suffit pas de définir l'articulation de la volonté autogestionnaire au problème culturel. Il faut encore la relier au moment privilégié de la lutte des travailleurs, c'est-à-dire au moment des luttes sociales. L'idée est fortement ancrée, trop fortement ancrée, désespérément ancrée, que la culture n'est pas à révolutionner et que s'il y a révolution, celle-ci n'est pas culturelle. Cette idée est ancrée jusque dans les têtes des travailleurs. Et pourtant, chaque lutte sociale suffisamment dure fait apparaître, en tout cas depuis mai 1968, depuis l'IPS si l'on veut, fait apparaître l'importance déterminante d'une transformation des consciences et la relation étroite qui unit le combat économique au combat politique et culturel. À chaque fois, les travailleurs se posent de manière aiguë la question des moyens d'information, d'expression et de communication dont ils disposent ou qu'ils peuvent acquérir. Les luttes sociales apparaissent donc comme un moment privilégié pour passer d'une critique abstraite de la culture dominante à l'affirmation d'un contrôle et d'un pouvoir populaire en matière de culture. Contrôle et pouvoir sans lesquels le combat économico-politique risque lui-même d'échapper à ceux qui en sont le principal moteur et qui devraient, en retour, en rester les principaux bénéficiaires. L'auto-organisation, l'auto-activité culturelle des travailleurs sont à la fois un élément indispensable de la stratégie autogestionnaire, de l'autogestion des luttes, et peut-être même l'objectif final d'une révolution socialiste. Dans cette perspective, l'enjeu de la période actuelle, c'est de passer de quelques moments réussis à une insertion conséquente, méthodique, des pratiques culturelles dans les luttes sociales. Non pas pour les meubler, bien sûr, non pas pour occuper et détendre les travailleurs entre deux moments de lutte dure, mais bien pour étendre ces luttes et les approfondir, ces pratiques culturelles devant toujours renvoyer comme à leur objet propre aux rapports sociaux et à leur transformation. Une société dite de transition ne pourrait que généraliser et intensifier les premières expériences réalisées dans le cadre de luttes ponctuelles telles que celles que nous connaissons actuellement. Ceci nous engage à un certain nombre de choses. Premièrement, non pas à exalter en termes abstraits, en termes libéraux, la liberté de création des producteurs culturels, telle est la position réformiste, mais bien à favoriser leur liaison avec les travailleurs en lutte. Deuxièmement, à organiser cette liaison comme une mise en cause du divorce traditionnel entre production et consommation. Il s'agit donc ici de garantir le contrôle des travailleurs sur le produit culturel, sur sa fabrication et sur son usage. Et plus généralement, il s'agit de subordonner la diffusion de produits culturels au développement et à la socialisation des pratiques les plus diversifiées. Troisièmement, il s'agit enfin d'encourager partout, dans les entreprises, dans les quartiers, dans les villages, les interventions permettant de creuser les contradictions liées à une pratique culturelle conséquente. En effet, les modèles culturels dominants sont vécus, sont intériorisés, sont subis, sont reproduits par les individus et les groupes, y compris dans les luttes et dans leur mode d'organisation. C'est ainsi que une action de type culturel, sur le modèle hiérarchique, peut poser question, par exemple, à un syndicat ou à un parti, quant à son propre fonctionnement. Nous avons jusqu'à présent essayé de définir une ligne pour la période actuelle. Cette ligne ne sera complète que si on se donne la peine de réfléchir, sans verser dans les bergeries socialisantes, sur ce que pourrait être la place d'une expression culturelle dans une société socialiste autogérée. Et il faut d'abord détruire un certain nombre d'illusions et de faux-semblants. Les vœux pieux n'ont jamais rien résolu. Il en est ainsi des proclamations naïves et satisfaites sur l'art prolétarien parce que fait par tous. Il en est ainsi de la religiosité qui, en définitive, entoure une soi-disant culture populaire aussi rétrograde en soient les formes. Il s'agit donc d'abord de ne pas se méprendre sur le caractère révolutionnaire d'un art ou d'une littérature. Il s'agit de ne pas se méprendre sur leur pouvoir de changement et sur leur action transformatrice. Cette action transformatrice, il ne faut ni l'exagérer, ni la minimiser. Car les relations sont extrêmement complexes entre l'acte de création production culturelle et la réalité sociale existante. Ainsi, les décalages et les contradictions sont nombreuses entre, d'une part, l'idéologie et l'origine de classe du producteur culturel, et d'autre part, la fonction et la signification objective de ces réalisations. Une bonne volonté révolutionnaire peut être totalement invalidée, frappée de stérilité absolue, si elle reste soumise, consciemment ou non, au stéréotype formel de la bourgeoisie et à l'idéalisme esthétique, quelles qu'en soient les formes, bourgeoises, staliniennes et, disons-le, maoïstes dans un certain nombre de cas. C'est dire la naïveté de ce qu'on peut appeler toute conception instrumentale de l'art ou des productions culturelles en général. Dire l'art au service des masses, dire l'art au service de la révolution, c'est, en dernière analyse, la conception stalinienne et très largement la conception reprise par les maoïstes, dont on se demande si elle n'est pas sous-tendue par une croyance religieuse ou métaphysique en la force de persuasion magique, en la capacité d'exorcisme en quelque sorte, de purgation, de ce qui, par ailleurs, n'est défini que comme un reflet. L'art ne serait que le reflet de la réalité sociale et des conflits qui s'y déroulent. Mais alors, par quel miracle, un reflet, c'est-à-dire une copie, une représentation diminuée, comment un tel reflet serait-il doué de la capacité surprenante de convaincre, de convertir et de changer? En fait, poser le problème dans ces termes, c'est mal le poser, c'est le poser sur le terrain même de l'idéologie dominante. Car l'art, pas plus que le langage, ne reflète à rien. Pas même la photographie, qui ne devient un art que si elle dénature, si elle distancie, si elle métamorphose ce qu'elle est censée reproduire. Seulement, on ne reproduit jamais purement et simplement. De deux choses l'une. Ou bien on contribue à camoufler encore plus la vérité des rapports entre les choses et entre les hommes, ou bien on s'efforce de mettre à jour, de mettre à nu cette vérité-là. Ce qui nécessite alors mille détours, mille médiations, mille parcours souterrains qui sont bien en deçà ou bien au-delà de la surface des apparences. Il serait totalement faux de s'imaginer que le monde se donne comme ça, comme une surface lisse, comme un spectacle, sans arrière-fond, sans coulisses, qu'il suffirait de décrire tel quel pour qu'en soit saisie toute la réalité. Cela, c'est l'illusion du réalisme naïf. La fonction essentielle des productions culturelles n'est ni de décrire, ni de transmettre des messages. On connaît trop les résultats du réalisme socialisme, quelle que soit sa nationalité, dans la transmission des messages. Les effets qu'on peut attendre des interventions culturelles sont aussi discrets et lointains que profonds. Ces effets touchent en effet aux règles et à la forme même de notre perception, de notre inconscient, de notre mode de pensée et de communication. S'il s'agit, pour répéter Lénine, de devenir d'autres hommes, il s'agit aussi de sentir, d'exprimer, de communiquer autrement que la culture dominante, qui est celle de la bourgeoisie, nous l'a enseigné. Dire cela, c'est à la fois relativiser considérablement le rôle de l'art et de la culture, et ça peut ne pas plaire aux professionnels de ces domaines-là, mais c'est en même temps lui assigner une fonction longue, patiente, difficile, mais tout à fait décisive. Il suffit de regarder l'histoire, et notamment celle de la révolution soviétique de 17. Ce sont de grands révolutionnaires de forme, d'abord, qui ont changé le théâtre, Meyerlot par exemple, ou le cinéma, Eisenstein, ou la poésie, Mayakovsky, ou la peinture, Malevitch, et bien d'autres domaines encore. Ceux-là, que leurs ennemis désignaient ironiquement comme des formalistes, ce sont pourtant eux qui ont donné un art à la révolution d'octobre, un art qui était adéquat au mouvement révolutionnaire. Ce ne sont pas les défenseurs, disons, du prolète culte de l'époque. Bertolt Brecht encourra plus tard le même reproche, la même critique de formalisme, pour avoir tenté d'inventer un nouveau réalisme, et pour avoir essayé de penser autrement la relation spectateur-spectacle. Ce qui importe donc, c'est davantage la multiplicité des significations, les perspectives qu'elles annoncent, et non pas leur réduction à une certitude, à une vérité déjà acquise, que quelques individus élitistes ou impartis seraient chargés de transmettre, comme un prophète, son message aux masses ébahies. Ces illusions étant critiquées, il s'agit d'imaginer ce que pourrait être une pratique culturelle dans une société autogestionnaire. Bien sûr, chacun a son programme portatif dans sa poche, je ne vais pas sortir le mien. Je crois qu'on peut s'attacher à deux principes, à deux grands axes. Tout d'abord, tout individu, et a fortiori toute collectivité, aura accès, aura toute facilité d'accès aux moyens techniques de la création. Le temps d'ailleurs fait partie de ces moyens, ce qui pose le problème de la répartition du temps de travail, et aussi de l'organisation de l'espace, notamment de l'espace urbain. Cela dit, avoir indiqué cette ligne laisse en suspens une question importante, qu'on ne peut pas trancher d'autorité, qui reste en débat. Est-ce que nous serons pour une complète déprofessionnalisation de l'artiste et de l'intellectuel, avec le risque de tomber dans les mythes populistes? Ou bien alors, sera-t-il nécessaire d'organiser une professionnalisation reconnue à part entière? Mais alors, à condition d'éviter la reproduction de l'idéologie bourgeoise, du génie et, socialement parlant, de l'élitisme, de la spécialisation, conçue comme un privilège, donnant des droits au niveau du revenu, au niveau de la disposition du temps et de l'espace. En tout cas, voilà un premier axe sur lequel la discussion est ouverte. Un deuxième axe serait que les motivations de chacun soient libres de tout contrôle bureaucratique. Autrement dit, et pour appliquer cette critique de la conception opératoire que j'ai développée tout à l'heure, il est admissible, il est souhaitable que l'expression esthétique se fasse aussi pour le plaisir. Il est naturel, il est souhaitable que les recherches formelles et expérimentales trouvent droit de cité. C'est dire que toute manière de procéder qui serait bureaucratique et qui dériverait de procédés autoritaires est à repousser. De toute façon, une œuvre qualifiée de réactionnaire, et les critères n'en sont pas toujours évidents, n'est dangereuse que si elle dispose du monopole du marché culturel et de l'information. Et quand bien même cela serait, si une telle œuvre correspond encore à des besoins sociaux, ce ne sont pas des mesures autoritaires qui feront disparaître ces besoins. Bien au contraire, cela les exaspérerait plutôt. Voir par exemple le renouveau de l'idéologie nationaliste, mystique, slaviste en URSS, dont Solzhenitsyn est la figure la plus connue du grand public. Si en revanche ces besoins qui trouvent à s'exprimer dans des œuvres dites réactionnaires n'existent plus en dehors de leur auteur, il apparaîtrait bien superflu de bâillonner ce qui n'exprime plus qu'une nostalgie, une peur ou une défense strictement individuelle. Ce n'est que si toutes les formes d'art ont la possibilité de cohabiter et de se confronter que se dégagera peut-être une forme plus spécifique, réellement en rupture avec toutes les formes de l'art bourgeois, en correspondance et en adéquation avec la réalité mouvante d'une société socialiste. Cela implique que tout le monde soit bien d'accord sur l'insuffisance d'un passage des moyens de la production culturelle des mains de la bourgeoisie aux mains du prolétariat. Insuffisance, mais nécessité. Cette réappropriation est absolument nécessaire en tant que base matérielle de la révolution culturelle dans l'art elle-même. Mais enfin, de multiples expériences l'ont prouvé jusqu'à présent, Il ne suffit pas de mettre une caméra entre les mains des travailleurs pour produire un film révolutionnaire. Combien de ciné-clubs ont fait l'expérience de la répétition des formes dominantes dans les recherches d'expression populaire? Il ne suffira donc pas que le privilège de la création devienne le droit de tous pour que jaillisse spontanément un art, une littérature, une culture authentiquement révolutionnaire. Le mot d'ordre de Lautréamont, que la poésie soit faite par tous, demeure à l'ordre du jour. Il ne nous dit rien sur les moyens d'y parvenir. Si cette ligne pluraliste et expérimentale que je propose à la discussion est vraie, on s'aperçoit que les expériences seront extrêmement importantes. Et même si, dans les conditions actuelles, ces expériences seront probablement individuelles et éclatées, il n'empêche que ce sont elles qui ouvrent la voie à l'invention libre de demain. C'est elles qui, en balayant l'idéologie dominante de nos cerveaux, en nous préparant à la réception de formes nouvelles, de manières de penser, de sentir, de dire différentes, ce sont ces expériences-là qui préparent l'avenir, dans la mesure où, une fois encore, elles se relient par des médiations multiples, incertaines, fragiles, aux luttes des travailleurs. Non, mais le fait que j'ai voulu pas faire un truc tout pensé d'avance, écrit, etc., et me livrer à l'improvisation, ça révèle, effectivement. Cet exposé peut-être un peu abstrait, d'un ton un peu dogmatique, il nous a semblé nécessaire de nous tourner vers une pratique et non plus par un vers un discours purement théorique. Et pour ça, on a demandé à une camarade qui s'appelle Christine, et dont les contradictions viendront heureusement balancer le ton monolithique du discours précédent, de venir débattre de ces problèmes avec nous. Christine est mère de famille, elle est prof de lettres, elle est même agrégée, elle est critique de théâtre dans un hebdomadaire protestant, et elle est aussi au Parti communiste. Si bien que la ligne que j'indiquais tout à fait à la fin d'expérimental et de pluraliste se trouve vérifiée dans ce débat. Je voudrais lui demander dans un premier temps quel est son sentiment vis-à-vis des thèses que j'ai pu développer et comment est-ce qu'elle les ressent, comment est-ce qu'elle les critique, qu'est-ce qui lui semble important à dire de son point de vue.
Oui, d'abord, on peut être que d'accord avec, non pas la conclusion, mais enfin les axes, les chemins qui s'ouvrent à la fin de l'exposé théorique. Il est évident que moi, je ne vois pas la culture autrement que comme ça, c'est-à-dire à la disposition des gens pour faire quelque chose. C'est vrai que consommer de la culture, bon ben ça n'avance pas, ça avance à quelque chose, mais pas assez loin. Et qu'il faut arriver à ça, c'est-à-dire à ce que les gens soient en état d'exprimer ce qu'ils ont en eux à créer. Bon, alors justement, je pense que là-dedans, y a tout au fil de l'exposé théorique qu'on a entendu, pas mal de choses qui sont évidentes et avec quoi on peut être que d'accord, d'autres que moi je préciserai un peu autrement. Bon, évidemment, les petits coups de patte contre la politique culturelle du Parti communiste me semblent pas très utiles, d'autant qu'ils reposent sur une description qui n'est pas exacte de cette politique, surtout actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est vrai que la culture, pas seulement dans les discours, mais enfin dans les faits, tient une place énorme dans la politique du Parti communiste et dans la politique quotidienne, disons. C'est pas un domaine à part. Enfin, je prends ça au niveau municipal, principalement, et aussi dans l'ensemble du travail du parti. Bon, la petite chose sur la fête de l'humanité, ce serait à discuter longuement, parce que C'est vrai que, par exemple, mettre l'exposition sur les impressionnistes à côté du Grand 8, c'est déjà quelque chose. Je veux dire, c'est pas l'exposition sur les impressionnistes au Grand Palais, qui est aussi d'ailleurs déjà quelque chose, mais bon, c'est dans un choc culturel, justement, entre la foire du trône et la culture qu'on n'osait pas aborder, quelque chose de très passionnant en soi, voir des gens faire la queue pendant une heure pour voir une exposition de peinture, des gens qui en dehors de ça n'ont qu'une très très vague idée de ce que c'est qu'un musée, c'est déjà un phénomène culturel important et intéressant. Bon, mais à part ça, sur la recherche, évidemment, on cherche dans le même sens, c'est-à-dire une culture vivante, enfin, qui marche, qui se pratique et qui soit bien approfondie comment dire, une façon de tenir compte du passé et du présent.
J'ai pu laisser entendre que il fallait bazarder purement et simplement un certain nombre d'institutions, que ça valait pas la peine de se battre à l'école ou dans les maisons de la culture. Qu'est-ce que tu reprendrais là-dessus?
Oui, moi, je trouvais que dire simplement à ce sujet, oui, on peut subvertir de façon tout à fait ponctuelle, bon, un petit peu à l'intérieur de ces appareils idéologiques d'État. Je pense quand même que l'appareil idéologique d'État, on peut le retourner beaucoup plus que ça. Si tu veux, j'ai pas à l'avance réfléchi là-dessus de façon à formuler une théorie bien, bien claire de la question. Mais enfin, je pense que moi, j'insisterai simplement plus là-dessus, sur le fait que c'est le lieu où on réfléchit, et qu'un lieu où on réfléchit, même en effet reproduisant les rapports sociaux, enfin, et même les rapports de classe très précisément, ce qu'ont montré successivement Bourdieu et Passeron, et puis l'école capitaliste Baudelot et Stablet, eux en font de l'école simplement un appareil idéologique d'État qui reproduit les rapports de classe, donc en soi négatif. Bon, moi je crois qu'ils oublient le côté dialectique là, parce que c'est aussi un appareil idéologique d'État. Pas oublier ça. Et que n'importe quel lieu, donc, où on rassemble, où on réfléchit, nécessairement se retourne contre l'institution, contre l'appareil. Et ça, c'est pas à sous-estimer. Bon, et ça me paraît valable aussi bien pour l'école en général que pour les maisons de la culture. Ce qui veut pas dire qu'il faille prendre l'école telle qu'elle est, ni les maisons de la culture telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il faut que justement on en profite le plus possible, parce que il n'y a pas tellement d'endroits de rassemblement justement pour discuter, pour avancer. Et d'ailleurs, ce qui prouve que c'est pas si univoque que ça et si simple, hein, l'école, c'est toutes les tentatives de réforme gouvernementale justement qu'il y a en ce moment. Bon. La réforme ABI, qui veut supprimer les enseignements artistiques en remplaçant ça par une vague initiation esthétique, bon, c'est une façon de vider l'enseignement artistique de son contenu et de nous faire reculer énormément sur le peu de pratiques artistiques que pouvaient déjà avoir les enfants. On ne dessinera plus, on dira, ben voilà, il y a Rembrandt, bon, enfin, on projettera des diapositives. Bon, pareil pour la musique, il y aura un vague discours esthétique et aucune pratique. Alors là, c'est un recul qui, à contrario, enfin, montre qu'il y avait un petit peu quelque chose, et que ce petit peu de quelque chose était déjà trop pour le pouvoir bourgeois dans son état actuel de faiblesse, enfin, donc prêt à tous les combats d'arrière-garde. Bon, même chose pour l'enseignement de la philo ou de l'histoire, qui sont très, très mis en cause par la réforme ABI, au nom d'une idéologie moderniste, mais qui est vite dénoncée. Enfin, ça rappelle Guizot, Napoléon III, etc. Dire ça, c'est une preuve un peu triste, même, mais enfin, qui existe, du fait qu'il y a moyen de faire quelque chose avec, en se servant de cet appareil idéologique d'État, et il faut le faire, enfin.
Oui, si j'ai donné l'impression de dire que ces appareils n'étaient finalement que des lieux de combat, mais que j'ai pas laissé entendre que c'était aussi des enjeux de combat, c'était pas suffisant de ma part.